Gatorad.
Gatorad, c'est avec toi, Louis.
Ouais, exactement. Comment ça va, les gars?
Oh bah, toujours très bien.
Parfait.
Très bien, très bien.
C'est le but. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une chronique un peu particulière et j'ai pas honte de l'annoncer, comme j'ai déjà annoncé et j'ai un peu teasé. C'est peut-être déjà la chronique la plus importante de mon année. Et pas simplement de l'année 2023, tout simplement de toutes les chroniques que j'ai déjà faites. Au-delà de parler d'un destin pour le moins tragique, on enchaîne avec John Huber la semaine dernière, on est encore sur un personnage avec une vie difficile. On va innover, j'ai mis un peu de budget aujourd'hui, on va mettre une nouveauté en place. Pour juste une fois, j'ai décidé de m'équiper d'un journaliste d'investigation qui a bizarrement, c'est très bizarre, la voix de mon cousin. On va tester. Bonjour Paul.
Salut Louis, salut tout le monde, ça gaze.
Bon, est-ce que tu te rappelles que j'ai des origines polonaises là quand même?
Bah justement, je rendais hommage à tes lointains cousins, t'inquiète.
Ouais. Est-ce que c'est normal que je te capte mal?
Ouais, bah ça capte un peu mal, je suis au fin fond du Finistère là. Conflit intersyndical entre indépendantistes bretons, je t'expliquerai, t'inquiète.
C'est ça, les excuses sont toujours bonnes. Mais dis-moi, Paul, qui est Jonah Lemou?
Eh ben, tu vois, Louis, Jonah, c'est tout simplement l'un des premiers noms qui nous vient à l'esprit quand on parle du rugby. D'origine tongienne, né le 12 mai 1975 en Nouvelle-Zélande, même si le lieu exact où il voit le jour est source d'interrogation encore aujourd'hui, ce colosse de presque 2 mètres, surnommé l'autobus par ses pairs, est considéré comme l'un des meilleurs ailiers, si ce n'est le meilleur, de tous les temps au rugby.
Hein? Un ailier? Mais non, c'est pas au basket, ça?
Bonne remarque, chef, mais c'est comme le poste de pivot, qui existe également au basket. L'ailier, il y en a d'ailleurs au hand et au foot. Hein. Il désigne le poste au bout de la ligne d'attaque, et il compose la ligne des trois quarts centres, avec les deux centres au milieu, donc. Mais bon, j'imagine qu'à Bordeaux, vous êtes calé niveau vocabulaire rugby, n'est-ce pas?
C'est pas faux, on est plus à l'aise avec le ballon au bal que le ballon rond ici. Bon, j'avoue, cette vanne est un peu tombée à l'eau en cours de production vu que Bordeaux-Bègles vient de ruiner ses chances d'Europe, mais c'est pas le sujet. Mais au-delà de ça, Lemou n'est pas forcément connu pour une carrière en club très important, il faut l'avouer. Mais c'est de par sa carrière internationale chez les All Blacks qui va s'illustrer, et ce, dès son plus jeune âge. Après être passé par le rugby à 7 puis à 13, il est repéré par l'équipe première de la Nouvelle-Zélande et débute sous leurs couleurs dès ses 20 ans, faisant de lui le plus jeune joueur à être appelé à l'époque. Et il démarre en plus contre l'équipe de France, avec deux test matchs d'affilée en juin 1994, se soldant par deux victoires pour les Bleus. Lemou sera d'ailleurs critiqué pour ses performances moyennes et ses lacunes défensives. Après un tournoi de rugby à 7 remporté sans trop de difficultés, et malgré ses contre-performances pour ses premières sélections, il est quand même retenu pour participer à la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud. Mais dis-moi Paul, est-ce que les performances de Lemou furent du même acabit que ses premières?
Justement, Louis, les doutes y fusaient à cette époque le concernant. Car le rugby à 15, ce n'est pas la même. Tactiquement, techniquement, on passe un level. Mais Jonah, il va rapidement s'imposer à son poste. Malgré un fils de troisième ligne, on rappelle presque 2 mètres pour 120 kilos le bébé, bah, il affole les compteurs de vitesse sur son côté. Avec un 100 mètres réalisé en moins de 11 secondes, le gars, c'est un buffle, quoi. Et les compteurs de points, ils seront également mis à rude épreuve. Lors de la Coupe du Monde 95, par exemple, il va inscrire 7 essais en 5 matchs, dont 4 lors de l'humiliation contre nos chers voisins anglais en demi-finale. D'ailleurs, c'est une des images qui restera dans les mémoires où les mecs, c'était 3 ou 4 là, à tirer son maillot, mais le Gus, il sprintait encore. C'était un véritable traîneau humain, le truc. Malgré la défaite en finale face aux Springboks de Pienaar, la victoire était ailleurs. Lemou est devenu une icône de son sport, qui vient de propulser parmi les sports les plus médiatisés du monde. L'histoire est dingue pour le gamin d'Auckland. Désormais, le rugby devient un sport mondialisé. Et la suite ne va pas nous décevoir. Porté par son Jonah national, les All Blacks poursuivent leur ascension avec une Coupe du Monde 99 incroyable. Incroyable à tout point de vue, notamment pour nous les Français. Après un premier tour relevé haut la main, nos Néo-Zélandais cartent facilement les Écossais avant de retrouver nos tricolores pour le choc des demi-finales. Un match de légende qu'on s'apprête à vivre. D'un côté donc, nos collègues de la zone océanique, portés par le Golgoth là, et de l'autre, une équipe de France revancharde après la défaite 54-7 lors de la tournée de préparation de juin dernier. Le match est donc en Mondiovision. Une lutte acharnée. Le sol de Twickenham en tremble encore. Pour un match de légende, il faut des joueurs de légende et des points de légende. Comme cet essai de l'inévitable Jonah pour permettre aux Blacks de mener 14-10 après avoir dévoré la défense française sur 30 mètres. Sa grande spécialité. Mais les Français n'abdiquent pas, non. C'est une place en finale qui se joue. C'est pas le tournoi de quartier d'Arcachon, là. Les efforts doivent être doublés, triplés, quadruplés, tout ce que vous voulez. Mais les Français doivent réagir. Mener 17 à 10 à la pause, la seconde mi-temps va être synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui de remontada. Mais le roi de Jonah, il n'entend pas de cette oreille. Après une nouvelle course fabuleuse qui mystifie la défense française, les Blacks mènent 24 à 10. Un joueur qui, 5 ans avant, était cantonné au jeu du rugby à 7 et qui, pour l'instant, porte son équipe pour une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive, c'est tout simplement impressionnant. Sauf que oui, mais non. Je disais tout à l'heure un match de légende. Et pour cela, il faut deux équipes sur le terrain. Piqué au vif, les Français n'ont plus le choix de lâcher leurs dernières armes dans la bataille. On parlait de scénario hollywoodien aussi. L'histoire est bel et bien en marche. Avec un Christophe Lamaison aussi à l'aise balle au pied que Zidane pour donner des coups de boule, la France revient 22-24. Les Blacks commencent à douter, à déjouer. Et les Bleus désormais gagnent les duels. La dynamique s'inverse. Les mouches ont changé d'âne. Et sur un coup de pied de celui qui est aujourd'hui notre sélectionneur Fabien Galthié, le très regretté Christophe Dominici, arrive lancé et aplatit la balle de l'autre côté de la ligne. Et c'est transformé 22-24. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et le puissant pack français assoit sa domination. La victoire française sera confirmée par un essai en contre en fin de match. 33 à 0. Outre une dédicace certaine pour votre beau département, c'est surtout le score infligé à ce moment-là aux All Blacks lors de cette remontada légendaire. Le mou était trop fort, mais pas assez pour contrer la magie du sport. Le dernier essai ne changera rien. Victoire 43-31. La France est en finale. Mais au-delà d'un match qui restera dans l'histoire du sport français, c'est le tragique de Lomu qui ressort. À la fois meilleur marqueur des Coupes du Monde de rugby, depuis la première compétition de 1987, mais aussi héros déchu, qui ne sera jamais champion du monde à 15. Et c'est de ce sublime mélange entre fabuleux et dramatique que la légende de Jonah Lomu prend forme.
C'est vrai qu'en regardant le match, la star, c'est lui, indéniablement. Il a son nom des records, et encore aujourd'hui, ses performances sont impressionnantes. C'est vrai que d'un côté, des détracteurs auraient pu dire que ses records n'étaient pas des plus impressionnants, la Coupe du Monde n'ayant été créée qu'en 1987, c'est très jeune. Mais j'aimerais bien vous y voir, moi. Ses performances sont légendaires, n'en déplaise à certains, et ses records sont autant légitimes que les autres. Il enchaînera ensuite malheureusement sur une période de 17 ans club, et des performances en dents de scie lors de test match, n'arrivant plus à performer au plus haut niveau. Bon, mais la cause est indépendante de sa volonté. Lomu est contraint de prendre des traitements intensifs suite à des problèmes majeurs aux reins. Une transplantation est obligatoire, et pourrait même causer la fin de sa carrière, voire le clouer en fauteuil roulant. Il sera même obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2003. Heureusement, la transplantation est réussie, et il retrouve le chemin des terrains d'entraînement en 2005.
Impressionnant quand même le gars. Enfin, déjà moi, après les croisés, j'avais peur de recourir. L'autre, il se tape une transplantation rénale et donne tout pour revenir. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas percé, tiens. Bref, c'est pas le sujet. Le gars, c'est un titan. Physiquement comme mentalement, il ne lâche rien. Arrive alors son plus grand défi sportif de sa vie, relancer sa carrière au niveau. Spoiler, la marche était trop haute, même pour Jonah. C'est un long chemin de croix qui démarre. Cardiff, la version Nouvelle-Zélande, North Harbour et même Marseille Vitrolles en fédéral 1 après avoir tenté une retraite partielle en 2007. Le goût des terrains lui manquait beaucoup trop. Le sport même lui manque trop. À tel point que, contraint de rester à l'égard des pelouses de rugby, il essaiera de se maintenir par un essai infructueux à la boxe sur ses terres néo-zélandaises. Hélas, c'est la descente aux enfers donc. Alors que sa fin de carrière est en train de se dessiner, notre ami Jonah va sans doute disputer le plus difficile match de sa vie.
En effet, après avoir tenté par la suite une reconversion dans la boxe avec plus ou moins de succès, surtout le moins d'ailleurs, Lomu recommence à souffrir de son rein greffé. Il est de nouveau obligé de se soigner, mais il en a marre. Il refusera même une deuxième transplantation alors qu'il était sur la liste d'attente. Et c'est malheureusement ainsi que le 18 novembre 2015, le docteur John Mayhew annonce la nouvelle. Jonah Lomu est décédé chez lui, à l'âge de 40 ans. Selon lui, un caillot de sang s'est formé au niveau d'un poumon, lors d'un vol d'avion qu'il a pris pour encourager son équipe pour la Coupe du Monde 2015 se déroulant en Angleterre et au Pays de Galles. Après sa mort, une fondation sera créée pour prendre soin de sa famille. Ses traitements ont coûté énormément d'argent, il n'a pas pu laisser un héritage.
Et cette nouvelle provoquera une vaste vague d'émotions. Premier rugbyman à véritablement devenir une star mondiale, les hommages rendus seront à la hauteur de sa notoriété et de son immense carrière. Jonah, c'est bien plus qu'un joueur de rugby. Il incarne le rugby des grandes courses, le rugby de la magie qui s'exprime à chaque ballon porté. Jonah, c'est le symbole d'une génération dorée, qui hélas aura laissé derrière elle un palmarès qui n'aura pas été à la hauteur des attentes. Jonah, c'est l'icône populaire des peuples autochtones du Pacifique. Jonah, c'est un exemple d'espoir et de courage face à la maladie. Jonah, c'est un exemple pour toutes les générations, avec un message bien clair. Croyez en vos rêves, laissez parler vos émotions, faites ce dont vous avez envie de faire et laissez les rageux sur le bord de la route. Un destin tragique pour un héros mythique. Il s'appelait Jonah et reste aujourd'hui l'une des plus grandes gloires du rugby mondial, pour l'éternité.
Eh ouais. Merci beaucoup, Paul. Bon, t'as dû quitter l'appel, c'est dommage, hein. Petit problème avec la DGSI. Bref, avant de partir, j'aimerais prendre un instant quand même pour dire quelque chose. La personne que vous venez d'entendre à mes côtés aujourd'hui est mon cousin Paul. Il a 4 ans plus que moi et a été, il faut le savoir, la première personne à qui j'ai envoyé ma toute première chronique à la radio qui est, les gars, j'ai besoin de vous, ma toute première chronique, c'était quoi ?
La toute première, c'était le coup de boule de Zidane.
Oui, exactement, le coup de boule de Zidane, chronique d'ailleurs inspirée par Léo, c'est bon de le rappeler. Donc, il a reçu la chronique et a tout de suite été d'un grand soutien et a immédiatement demandé à vouloir participer sans même que je lui demande. Et après tant de galères, qui est d'ailleurs la raison des changements de programme précédents dans Gatorade, je suis très content de ce que nous vous avons proposé. Paul est une personne très importante dans ma vie. Malgré le fait qu'on soit éloigné par la distance qui nous sépare, lui à Brest et moi ici, on a toujours été très proches et on se parle régulièrement par message pour se charrier et se foutre joyeusement de la gueule du Stade Brestois qui sont incapables d'enchaîner 2 victoires en Ligue 1. Et je veux lui dire quelque chose, et je vais le faire. Mais avant ça, je veux transmettre un message à vous, chers auditeurs. Au-delà de tout ce qui est chronique sportive, etc., c'est bon de le rappeler. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Demain n'est jamais garanti. Dites-leur par téléphone, en vrai, peu importe, je m'en fous, mais dites-leur. C'est vrai que « je t'aime », c'est une phrase si simple, mais si compliquée à dire à la fois. Et moi-même, c'est vrai que j'y arrive pas. Pardon, j'arrive pas. Et pourtant, il y a plein de personnes à qui j'aimerais dire ça. Parce que bon, je dois l'admettre, je suis pas le personnage le plus simple et j'aurai toujours cette étiquette de malade au-dessus de la tête. Mais je fais toujours mon possible pour montrer aux gens que je tiens à eux. Donc pour la première fois, il est grand temps que j'écoute mes propres conseils, moi qui en donne beaucoup aux autres. Donc c'est dit, je me lance. Et je suis encore désolé d'avoir pris autant de temps d'antenne, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. Paul, cette phrase s'adresse à toi et à toute ma famille et mes amis, Clément et Léo compris par ailleurs. Je t'aime et merci pour tout.